dans Radio Fabrique, on colle des mots, on essaye les micros.
Bonjour, aujourd'hui...
Attends.
Bonjour, aujourd'hui on va interviewer une astrophysicienne qui travaille au laboratoire d'astrophysique de Marseille.
Dans Radio Fabrique,
on essaye la technique.
C'est pas grave, vous pouvez la refaire.
Comment on fait? Comment ça se fait?
Radio Fabrique. Écoutez les créations sonores de la vallée.
Podcast littéraire.
Figure du 19e siècle.
Un podcast fait par les 4e du Collège Armorin.
Bonjour à tous, nous sommes Abby, Antoine, Lila et Corentin, élèves de 4e 5 du Collège Armorin à Cré. Suite à notre voyage à Paris en mars 2026, nous vous présentons un podcast sur le musée d'Orsay, le réalisme et le célèbre artiste du 19e, Gustave Courbet.
Le musée d'Orsay n'a pas toujours été un musée. Remontons le temps jusqu'en 1900, à l'occasion de l'exposition universelle où la gare d'Orsay ouvre ses portes.
Bienvenue dans la nouvelle gare d'Orsay. Le premier train embarquant à Paris va bientôt quitter la gare.
Voyageurs de Paris, bienvenue dans notre toute nouvelle gare. Élégante, majestueuse, à la pointe de la modernité. Elle est munie de monte-charge pour les bagages, de tapis roulants, d'ascenseurs. Et même d'un hôtel de luxe avec des salles de conférences et de banquets intégrés.
Mais cette gare très réputée, à l'époque, est vite dépassée par la technologie. Ainsi, 40 ans plus tard, la gare ferme ses portes.
Le dernier train embarquant à Paris va bientôt quitter la gare.
Chers passagers, nous avons le regret de vous annoncer la fermeture de la gare d'Orsay.
Une fois la gare désertée, elle est lieu de tournage de plusieurs films, comme le procès d'Orson Welles.
Oui, voilà, comme ça. Et action !
Il y a aussi une troupe de théâtre qui s'y installe.
Merci. Nous sommes heureux de vous accueillir pour une nouvelle représentation théâtrale.
Mais en 1961, la gare était menacée de démolition pour être remplacée par un grand hôtel.
Je vous demande simplement l'autorisation de détruire cette gare inutile pour en faire un hôtel luxueux.
Mais ce n'est que des années plus tard qu'une réponse fut entendue.
Nous refusons cette destruction. Nous avons un projet plus noble. Rendre cette gare inutilisée en un musée populaire.
Finalement, la gare fut même classée monument historique, évitant ainsi toute tentative de démolition. En 1986, après de grands travaux, le musée d'Orsay fut inauguré par le président François Mitterrand.
J'ai le plaisir de vous annoncer que la gare d'Orsay est officiellement un musée de Paris.
Réunissant la plupart des œuvres impressionnistes, le musée possède aussi des œuvres réalistes. Nous allons donc vous présenter Gustave Courbet et plus précisément deux de ses œuvres.
Courbet est un artiste réaliste du 19e siècle. Cette méthode artistique consiste à représenter la réalité, aussi difficile qu'elle soit. Né à Ornans en 1819, il a eu un fils et a fait de nombreux tableaux, avant de mourir en Suisse à 68 ans. Lors de notre voyage, nous avons pu interviewer des visiteurs devant deux tableaux célèbres, l'Atelier du peintre et le Désespéré, prêté exceptionnellement à la France par le Qatar. Qu'est-ce que vous pensez de ce tableau ?
Beaucoup de choses, c'est un tableau qui est très riche, on est sur un très grand format, donc en fait c'est intéressant. Courbet reprend le style des peintures d'histoire monumentales, mais en peignant une scène de vie. Si je me rappelle bien, c'est aussi un peu un tableau autobiographique et c'est un peu un récit aussi de sa vie en tant que peintre, en tant qu'artiste, donc chaque personnage raconte un peu une histoire. Donc il est assez touchant, il est sombre, mais malgré tout le centre est quand même très clair, donc il y a un côté assez harmonisé je trouve, entre les couleurs. J'aime beaucoup le réalisme, donc c'est une peinture que j'aime beaucoup.
Bonjour, qu'est-ce que vous ressentez en regardant ce tableau ?
En regardant ce tableau, je vois que Courbet, il est capable de peindre tous les sujets de la peinture. Déjà de la grande peinture, un format qui s'adresse normalement à la peinture d'histoire ou à la peinture mythologique. Et dedans, il dresse la liste de tous les genres de peinture qu'il est capable de faire à l'époque.
quoi comme émotion que vous ressentez
C'est vraiment de l'admiration pour ce peintre qui a été capable de peindre dans tous les genres.
Que pensez-vous de ce tableau ?
Ben, moi, ce que j'aime dans le, enfin, dans ce genre de peinture d'impressionnisme, c'est qu'on croirait que c'est une photo. C'est très réel. Les expressions du visage et tout ça, c'est, on a vraiment l'impression que c'est une personne réelle qui nous regarde. Voilà.
Qu'est-ce que vous ressentez ?
Je ressens un peu le, je sais pas, la peur qui se sur son visage ou l'effroi un peu peut-être. Et voilà, ça me provoque les mêmes émotions.
Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions la radio Saint-Ferréol de nous diffuser, les visiteurs qui ont bien voulu répondre à nos questions, et bien sûr Madame Garé, notre professeure de français, et Madame Chambert, la documentaliste de notre collège, pour avoir organisé notre voyage à Paris, ainsi que Sarah pour nous avoir aidés à faire ce podcast.
Podcast littéraire.
Les grands magasins.
Bonjour, nous sommes des élèves de 4e, Tina, Luca, Enaya et Léa. Et suite à un voyage à Paris en mars 2026, nous avons créé un podcast sur les grands magasins. Nous avons interviewé des passants aux Galeries Lafayette. On vous souhaite une bonne écoute.
Nous avons imaginé un dialogue entre Aristide Poussicot, le fondateur du premier grand magasin, et une de ses employées, Jeanne.
Entrez. Bonjour Monsieur Poussicot. Désolée de vous déranger dans votre travail. Je ne voulais juste vous prévenir que le baron Haussmann vous invite à dîner prochainement. Il me semble que c'est pour vous remercier pour votre magnifique magasin.
Quand est-ce ?
Le 8 mai, monsieur.
Dites-lui que je serai volontiers.
Je ne manquerai pas de lui dire.
Quel est votre nom, mademoiselle ?
Je me prénomme Jeanne.
Eh bien, mademoiselle Jeanne.
Monsieur, sans être indiscrète, puis-je vous poser une question ?
Oui, laquelle ?
Quand avez-vous eu l'idée de ce magasin ?
Eh bien, tout a commencé il y a plusieurs années. Ma femme et moi avions un petit magasin. Nous y vendions toutes sortes de produits, ce qui a beaucoup plu aux clients. Ma femme et moi, nous avions énormément d'idées pour améliorer la manière de consommer. C'était la première fois que les prix étaient fixes. Nous avions inventé des catalogues pour présenter nos produits et nous employions une majorité de femmes. Nous avons révolutionné cette époque.
Cette histoire est fascinante et je pense qu'elle inspirera plusieurs générations dans le futur.
Maintenant, nous allons écouter une interview prise aux Galeries Lafayette. Un son pris par Tina et Lucas s'est chargé de l'interview.
Donc la question du jour, c'est est-ce que vous connaissez du coup l'histoire des grands magasins ?
Alors oui, le premier grand magasin, c'était le Bon Marché, du coup, qui a été ouvert en 1870, quelque chose comme ça. Après, celle des Galeries Lafayette, je ne la connais pas trop.
D'accord. Et donc, vous savez quelle famille a instauré le Bon Marché ? C'est pas grave.
Un couple, c'était Aristide et Marguerite Boussicot. Et au début, ils avaient fait un tout petit magasin. Puis, ils avaient des idées assez nouvelles pour l'époque. Du coup, ils avaient pu vraiment développer le concept.
Qu'est-ce que vous pensez du coup des Galeries Lafayette, de l'organisation, de commencer ?
Bah, les Galeries Lafayette, c'est un peu ce centre commercial de luxe maintenant. C'est vrai que le Bon Marché, on entend limite moins parler que les Galeries Lafayette. Déjà le dôme, la coupole, c'est très connu. Puis en plus de ça, c'est quelque chose qui réunit beaucoup de personnes. Les bourses, plus ou moins. Mais c'est vrai que c'est un très bel endroit. Moi, de base, j'ai commencé à travailler ici parce que ma grand-mère était fan de cet endroit.
Voilà. Est-ce que vous connaissez l'origine des grands magasins ?
Bonjour. Concernant l'origine, je sais que ça a été créé dans le 19e, 20e, pour pouvoir regrouper toutes les marques et du coup répondre un peu à la bourgeoisie et toute la demande exigeante de cette population.
Merci beaucoup.
Pour résumer, les grands magasins sont aujourd'hui le symbole de toute une époque. Ils ont révolutionné la manière de consommer et continuent encore aujourd'hui d'inspirer dans le monde entier.
Merci d'avoir écouté notre podcast et un grand merci à Madame Garé, notre professeure de français, Madame Chambert, la documentaliste du Collège Armorin et à Sarah de Radio Saint-Périol.
Podcast littéraire.
La Tour Eiffel et ses artistes.
Bonjour, nous sommes des élèves de 4e du Collège Jean-François Armorin, à Cré. Nous avons fait un voyage scolaire à Paris en mars 2026 et nous avons réalisé un podcast sur les artistes et la Tour Eiffel.
Nous avons imaginé un dialogue entre Gustave Eiffel et Guy de Maupassant qui est en train de manger au restaurant du 2e étage de la Tour Eiffel.
Monsieur de Maupassant, après toutes les horreurs que vous avez dites sur cette tour, cela me surprend que vous soyez en ce moment même en train de dîner dans cette tour que vous détestez tant.
Je ne perds pas mes habitudes. Dîner dans ce restaurant me cache la vue sur cette répugnante structure métallique de 320 mètres.
Pourquoi parler de telle manière de mon chef-d'œuvre ?
Je dis seulement ce que je vois, monsieur Eiffel.
Et que voyez-vous donc ?
Une chasse bien étrange qui ne plaît point à tous.
Tout ce qui est nouveau surprend d'abord.
Peut-être, mais cela me semble bien hardi.
Il faut parfois oser pour avancer.
Oser, dites-vous ? Je vois surtout de la démesure.
Vous jugez bien vite ce que vous comprenez mal.
Et vous, vous supposez que tout le monde doit admirer sans mot à dire.
Je n'exige rien, sinon un peu de bon sens.
Le bon sens me dit que cet ouvrage choque plus qu'il ne le plaît. Voyez-vous, monsieur Eiffel, me balader dans ma chère ville en présence de ce pylône métallique me désespère à un tel point que sortir de chez moi devient un véritable calvaire. Au point où cela me donnerait envie de quitter Paris et même la France.
Cette tour, monsieur Maupassant, qui m'a pris tant de temps, 2 ans, 2 mois et 5 jours, si vous croyez que la détruire est une option qui n'est absolument pas envisageable.
Cela me déplaît énormément.
En disant cela, vous entachez la réputation des 300 ouvriers qui ont participé à la construction de la tour et aussi l'ouvrier mort pendant la construction.
300 hommes qui ont impliqué 2 ans de leur vie pour construire cette horreur rouge qui gâche Paris.
Comment osez-vous dire ça de telle chose dans le restaurant de ma tour ?
Même le restaurant est à l'honneur de cette horrible tour.
Sortez de mon restaurant et ne revenez plus si vous le détestez tant.
Maintenant, nous allons vous diffuser un micro-trottoir que nous avons réalisé au Trocadéro en mars 2026 à Paris.
Qu'en pensez-vous des avis des artistes au 19e siècle sur la Tour Eiffel ?
Si vous les connaissez.
Et sur la Tour Eiffel, il y avait des opinions totalement opposées. Parce qu'il y avait quelques-uns qui ne voulaient pas, qui disaient que c'était une chose horrible. Il y avait d'autres qui disaient que c'est vraiment quelque chose de différent et c'était très bien pour Paris.
Que pensez-vous actuellement de la Tour Eiffel ? Est-ce qu'elle vous plaît ? Est-ce que vous l'aimez ?
Et c'est le symbole d'une culture, d'une société. C'est le symbole de la France. Et non pas seulement de la France, mais d'un moment historique de l'humanité. Ça a marqué une époque.
Ce podcast a été réalisé par Enéa, Enoa, Baptiste, Zachary et Charlie. Nous remercions la personne que nous avions interviewée, Madame Garé, notre professeure de français, Madame Chambert, la documentaliste d'Art Morin, Sarah, qui travaille à Radio Saint-Ferriol.
Podcast du Voyage à Paris, l'Opéra Garnier.
Bonjour, nous sommes des élèves de 4e de l'établissement scolaire Art Morin. On s'appelle Maëlle, Mélissa, Lucia, Mathis et Louane. Nous avons été à Paris en mars 2026 et nous avons visité le Palais Garnier. Notre podcast a pour thème ce magnifique opéra.
On va vous passer l'enregistrement de notre guide parlant du fantôme de l'opéra.
Le roman qui a été écrit par Gaston Leroux, hein, donc on est au début du XXe siècle. Et dans cette histoire, on parle de Eric, hein, celui qui deviendra Eric, le fantôme noir de l'opéra, qui avait des blessures au niveau du visage et les cachait sous un masque. La mort mystérieuse d'un l'un des machinistes. Donc un des techniciens qui travaille pour la scène, et vous devez savoir que justement on disait qu'il se serait suicidé, pendu, mais dont on n'a jamais trouvé la corde. Eric a un fond de vérité.
Nous avons imaginé un dialogue entre le fantôme de l'opéra et le concierge.
Des ouvriers ont découvert ma cachette souterraine. Pour me venger, j'ai dévissé le chandelier pour tuer le concierge.
Je suis mort écrasé lors d'une représentation.
Et moi je suis mort brûlé en tentant de sauver ma fiancée. Je suis tellement connu que Gaston Leroux s'est inspiré de mon histoire pour son roman « Le fantôme de l'opéra ».
Toi, mon meurtrier, tu es devenu célèbre pendant que moi, je sombre dans l'oubli. Ce n'est pas juste.
Et oui, et de plus, je loge maintenant dans la loge numéro 5. N'y entrez surtout pas. Je continue à effrayer, encore aujourd'hui. Et on dit que ma loge est maudite.
On vous présente le palais dit par Louane.
Charles Garnier voulait reconstituer l'ambiance de la noblesse avec peu de moyens pour les miséreux.
On a interrogé un employé du palais, voici ce qu'il répond.
Aimez-vous les peintures murales et pourquoi ?
Parce que c'est beau, c'est aussi l'histoire de la France.
Connaissez-vous les légendes sur le fantôme de l'opéra ?
Ce que je sais par rapport au fantôme de l'opéra, je sais que c'est quelqu'un qui est mort pendant un spectacle qu'on n'a jamais retrouvé.
Savez-vous pourquoi l'opéra a été construit ? Par qui, pourquoi et quand ?
Non.
C'est par Charles Garnier, après l'attentat de Napoléon III, et le début en 1861, et la fin a été 1850. Merci.
Maëlle va vous présenter comment l'opéra a été construit.
Le palais Garnier a été conçu par Charles Garnier, construit dans le cadre des grands travaux haussmanniens de Paris. La première pierre fut posée en 1861, mais la construction fut retardée par la guerre franco-prussienne de 1870 à 1871 et la Commune de Paris 1871. La construction s'est terminée en 1875.
Mathis va vous parler de Charles Garnier, le constructeur.
Charles Garnier est né le 6 novembre 1825 à Paris. Il a épousé Marie-Louise Barry en 1858 à Paris. Ils ont deux enfants. La construction du nouvel opéra de Paris a commencé en 1861 et a fini en 1875. Il a été décidé par Napoléon III qui confie le chantier à ce jeune architecte en vue qui a gagné le concours pour sa construction. Charles Garnier a travaillé sous l'égide du baron Haussmann qui a modernisé la structure urbaine à Paris. L'édifice fut construit pour répondre aux luxueux plaisirs réclamés par le tout Paris et la cour impériale. Pour cet immense chantier auquel il associe ses amis artistes, peintres, sculpteurs, décorateurs, il a travaillé sans relâche pendant 14 ans. Il meurt à Paris le 3 août 1898.
Mais ça vous présente un peu les fêtes.
Les fêtes du Second Empire sont organisées au XIXe siècle par Napoléon III. Elles ont lieu dans la salle principale du palais. Se succèdent bals, dîners de gala et concerts. Les plus grands bals sont à la période du carnaval, avec 3000 à 4000 invités. Et on se souvient d'un grand bal costumé en l'honneur de Napoléon III et du Second Empire.
On remercie Madame Chambert, Madame Garé et Sarah de Radio Saint-Ferriol pour ce podcast.
Nous sommes Lisanna, Colline et Cali, des élèves de 4e 1 du Collège Armorin à Cré. Fin mars, nous sommes partis à Paris et nous allons vous parler de la Tour Eiffel et de ses artistes. Nous avons imaginé un dialogue entre Gustave Eiffel, le créateur de la Tour Eiffel, et Guy de Maupassant, un artiste qui détestait l'édifice. Ce dialogue se passe dans le restaurant de la Tour Eiffel.
Podcast littéraire. La Tour Eiffel à travers ses époques.
Oh bonjour, êtes-vous Gustave Eiffel, l'architecte de cet ouvrage ?
Bonjour, oui bien sûr c'est moi, que voulez-vous ?
Pourquoi mentez-vous, sale imposteur ?
Que racontez-vous, monsieur ?
Ce n'est pas vous le réel architecte de la tour. Vous avez racheté les brevets et y mettez votre nom.
J'ai toujours assumé d'avoir acheté les premiers dessins de la tour Eiffel, mais je les ai modifiés et améliorés. J'ai énormément travaillé lors de sa construction. J'estime alors qu'elle a le droit de porter mon nom.
Peut-être, mais nous, citoyens de Paris, détestons l'édifice. Il gâche tout Paris. Votre travail n'a servi absolument à rien.
Comment ça, rien ? Elle a servi à l'exposition universelle de 1889 à Paris.
En tout cas, j'espère qu'elle sera détruite comme prévu dans quelques mois.
Non, je me battrai pour qu'elle reste.
C'est une blague ? Eh bien, je continuerai de la haïr, tout comme je vous déteste.
J'ai compris que vous ne l'aimiez pas depuis bien longtemps avec vos surnoms ridicules.
Squelette disgracieux et géant ? Ce n'est que la vérité.
Pourquoi détestez-vous autant la tour ?
Le Louvre, Notre-Dame, l'Arc de Triomphe, les beaux bâtiments en pierre sont l'essence même de Paris. Cela fait son harmonie.
Votre structure métallique en fer gâche cette harmonie. Cela est votre avis, monsieur. Nous avons des opinions différentes, tout autant de citoyens l'apprécient.
Justement, aujourd'hui, en 2026, qu'en pensent-ils les gens ? Tout de suite, un micro-trottoir au jardin du Trocadéro.
Qu'est-ce que la Tour Eiffel, elle représente pour vous ?
Moi, je pense qu'il propage la France au summum, en fait. Il y a beaucoup de touristes qui viennent. Ça enrichit la France, vu le nombre de touristes, tout ça. Et je pense que c'est un très beau monument. On est fiers d'avoir ça en France.
Est-ce que vous saviez qu'elle était détestée au 19e siècle ?
Non, je savais pas du tout, hein, mais je me demande bien pourquoi.
Et vous pensez quoi de la tour ?
Moi, je pense que c'est un très beau monument. Très, très beau monument. Quand tu te balades, il y a de quoi faire, quoi. Non, moi, ça, il y a un truc. Enfin, il y a... Le monument lui-même est beau, quoi.
Merci beaucoup. Au revoir.
Un podcast réalisé par les élèves de 4e 1 du Collège Armorin à Cré.
Nous remercions Madame Garé, professeure de français.
Madame Chambert, documentaliste d'Armorin.
Tous les professeurs qui nous ont accompagnés et Sarah de Radio Saint-Ferriol.
Podcast littéraire.
La naissance des grands magasins.
Un podcast réalisé par les élèves de 4e 1 du Collège Armorin.
Bonjour, nous sommes Elias, Solveig et Colline du Collège François-Jean Armorin à Cré. Suite à un voyage à Paris en mars 2026, nous avons réalisé un podcast sur les grands magasins.
Nous avons imaginé un dialogue entre Théophile Bader, fondateur de Galerie Lafayette, Aristide Boutchico, fondateur du Bon Marché, et Xavier Ruel, fondateur du Bazar de l'Hôtel de Ville. Théophile Bader fait visiter son magasin aux deux autres grands patrons.
Enchantée, je suis Théophile Bader. Je voulais organiser cette réunion pour vous faire visiter mon magasin et pour que vous puissiez me donner quelques conseils sur les nouvelles manières de vendre des produits.
Enchantée, je suis Aristide Boutchico, fondateur du Bon Marché. Bien sûr, je pourrais vous donner des conseils pour vous aider.
Bonjour, je suis Xavier Ruel, fondateur du Bazar de l'Hôtel de Ville, et je pourrais également faire de même.
Nous allons commencer par les vitrines, qui sont en ce moment à la mode.
Vos vitrines sont très jolies, mais il manque un petit quelque chose.
Oui, je suis d'accord. Il manque un peu d'animation, de couleur.
D'accord, merci, je le note. Passons à l'intérieur, allons dans les rayons.
C'est très bien organisé, avec les vêtements, les tissus, le linge de maison. Mais il faudrait que les articles soient mieux mis en valeur.
Les prix sont fixes et affichés, ce qui est une grande nouveauté dans notre époque. Vous pourriez travailler un peu plus dessus afin d'attirer une clientèle populaire et bourgeoise.
Oui, il y a quelques temps, j'ai agrandi les rayons et construit plusieurs étages pour améliorer la consommation de masse. Ici, il y a les cabines d'essayage. Là, la caisse enregistreuse. Ici sont posées les grandes nouveautés avec les catalogues.
Oui, très bonne idée.
J'en ai aussi mis dans mon magasin.
Enfin, je vais vous montrer l'endroit typique de mon magasin, la coupole de verre dont je suis très fière.
C'est magnifique.
C'est splendide.
L'architecture est commerciale et très importante pour attirer les clients.
Oui, cela est vraiment important. Mon bâtiment est grand, moderne et lumineux. Certaines parties de mon magasin utilisent des structures métalliques. Et puis, il est organisé sur plusieurs étages, ce qui permet d'accueillir un grand nombre de clients.
De mon côté, mon bâtiment possède des murs blancs et une toiture en ardoise, ce qui lui donne un style sobre et élégant tout en restant très fonctionnel pour accueillir les clients.
Merci à tous pour vos conseils. Je vais pouvoir améliorer mon magasin grâce à vous.
Lors de notre voyage à Paris en mars 2026, nous avions aussi enregistré quelques personnages dans les Galeries Lafayette pour avoir leur avis sur la coupole de verre et pourquoi travaillaient-ils ici. Nous vous proposons de les écouter.
Bonjour, que pensez-vous de la coupole de verre ?
Bah, je trouve que c'est super beau et c'est grand, c'est impressionnant.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ici ?
Bonjour, donc ce qui m'a donné envie de travailler ici, déjà, c'est le cadre, qui est un très beau cadre mode, luxueux, et aussi le dynamisme du bâtiment, voilà.
Nous remercions Madame Garé, notre professeure de français, Madame Chambert, notre documentaliste, et Sarah, qui travaille à Radio Saint-Ferréol.
Bonjour, nous sommes Evan, Lou, Maïli, Lindsay et Jade de la classe 4e 1. En 2026, nous sommes partis en voyage scolaire à Paris. À cette occasion, nous avons imaginé un dialogue entre Madame de Sivigné et son majordome.
Bonjour Madame.
Ah bonjour, je vais vous chercher. Pourriez-vous me préparer une calèche pour cet après-midi ? J'ai prévu de rendre une visite à mon cousin, Monsieur Coulange. Il est arrivé à la cour du roi hier soir.
Très bien, je m'en occupe, madame. Monsieur, votre cousin, est sûrement venu pour voir de ses propres yeux à la cour de notre souverain, rassemblement de la plus haute noblesse telle que vous lui aviez décrite.
Merci, je me suis fait une telle joie de revoir mon très cher cousin. Cela fait 2 ans de cela que je ne l'ai pas vu.
Vous m'en voyez ravie. Mademoiselle, votre fille, vous accompagne-t-elle ?
Non, Françoise doit rester pour préparer ses malles. Tout de même, dans 5 jours, elle s'en ira rejoindre mon gendre, Monsieur de Grignan. Et je me retrouverai seule avec la Carnavalette.
La Carnava quoi ?
Oh, excusez-moi, je me suis permise de renommer cette demeure la Carnavalette.
Votre imagination me laissera toujours sans voix. Mais je suis sûre que vous vous en sortirez très bien sans votre fille. Vous vous rendrez plus souvent à la cour du roi, vous y croiserez sûrement Madame de Lafayette ou Monsieur de Pomponne.
Ces divers amusements ne pourront combler le vide laissé dans mon cœur. Par son départ, je serai comme toute mère privée de son enfant, un oiseau privé de ses ailes, et je ne serai aussi inutile qu'un voilier un jour sans vent.
Il y a toujours des solutions, madame. En tant que voilier, vous avez envoyé un signal de détresse. Mais peut-être serait-il l'heure de hisser les voiles ? Et peut-être devriez-vous laisser votre descendance lever l'ancre ?
Vous devez avoir raison. Peut-être est-il temps pour elle de devenir la femme indépendante que j'ai toujours voulu qu'elle soit.
Je suis ravie que vous vous sentiez mieux. Sur ce, je m'en vais préparer votre calèche. Est-ce que vous avez une œuvre favorite au musée Carnavalet ? Et si oui, pourquoi ?
Alors, mon œuvre favorite, c'est la partie Mucha. Et pourquoi ? Parce que j'adore les couleurs, les formes, et aussi parce que j'aime beaucoup l'époque de l'art déco et l'art nouveau. Voilà.
Ce podcast a été réalisé par Jade,
Lou,
Maëlie,
Lindsay,
Evan.
Merci à Sarah de Radio Saint-Ferréol, à Madame Garé, notre professeure de français, et à Madame Chambert, notre documentaliste.
Bonjour, nous sommes
Heidi,
Selma,
Maëlia,
Samy
et Andrei de la classe de 4e du Collège Armorin. Nous avons fait un voyage à Paris du 24 au 28 mars 2026 et avons fait un podcast sur le musée d'Orsay.
Nous avons imaginé un dialogue entre un guide et des visiteurs.
Bonjour, je vais vous présenter le tableau qui s'appelle « Le Parlement de l'Ombre » de Claude Monet. Ce tableau représente le Parlement de l'Ombre avec un coucher de soleil.
Et quelles sont les dimensions de ce tableau ?
81,5 cm sur 92,5 cm.
J'ai une question. Comment le bâtiment est passé d'une gare à un musée ?
À l'époque, la gare était assez grande pour accueillir les trains. Mais après la guerre, les trains ont évolué et sont devenus trop grands pour y passer. Puis la gare a fermé et la SNCF a vendu le bâtiment en 1961. Quelques temps plus tard, la direction des musées de France, qui cherchait un bâtiment pour accueillir les collections de peintres, ont décidé que le site d'Orsay était idéal. Les portes ont été ouvertes le 9 décembre 1986 au grand public.
Et maintenant, on va vous présenter notre œuvre préférée.
Le déjeuner sur l'herbe, fait par Édouard Manet. Je l'aime bien parce qu'il est beau et bien peint.
Nous avons interrogé quelques visiteurs et voilà ce que nous a dit l'un d'eux.
Qu'est-ce que vous pensez du musée d'Orsay ?
En fait, c'est la première fois que je visite ce musée. J'ai adoré surtout les sculptures. La peinture, il y a des peintures qui datent des années 1800. Pour moi, je trouve que c'est comme si on est revenu, on revient aux années 1800 pour voir les gens, comment ils vivaient, parce qu'on voit ça sur les tableaux, comment ils vivaient, ce qu'ils portaient, la vie quotidienne, etc. Voilà.
Est-ce que vous avez une sculpture ou une peinture préférée que vous aimez bien ?
J'étais très intéressée de visiter les tableaux de Van Gogh. Et c'est la première fois que je les vois d'ailleurs. Et je ne savais pas qu'il était mort en se suicidant. Dans ses tableaux, il faisait les portraits des gens qu'il connaissait, sa chambre où il vivait, la nuit, les étoiles, enfin tout ce qu'il voyait, quoi. Et ça, je trouve que ça, c'était très, très intéressant.
Merci. Merci.
Nous remercions Madame Garé, Madame Chambert et Sarah de Radio Saint-Ferriol pour la réalisation de ce podcast.
Bonjour, nous sommes Maëva, Zélie, Amy, Raphaël et Indajani. Nous sommes au collège Jean-François Armourin. Nous sommes partis à Paris du 24 au 28 mars. Nous allons vous parler de l'Opéra Garnier ou Palais Garnier. C'est un théâtre national qui a la vocation d'être une académie de musique, de chorégraphie et de poésie lyrique. Il est un élément majeur du patrimoine du 9e arrondissement de Paris et de la capitale. Il y a environ 25 ans, avant la guerre contre la Prusse, le 14 janvier 1858, Napoléon III et son épouse Eugénie sont victimes d'un attentat tandis qu'ils ne se rendent à l'Opéra de Paris, alors situé rue Le Pelletier. Marqué par cet incendie tragique, il décide de faire construire une nouvelle salle de spectacle plus sûre, plus grande et plus moderne, le célèbre Palais Garnier.
Nous avons imaginé un dialogue entre le fantôme de l'opéra et une femme de ménage du Palais Garnier.
Une nuit au Palais Garnier, les lumières encore allumées, une femme étant en train de nettoyer le sol.
Non, mais c'est pas vrai, il me semblait qu'il ne devait y avoir personne si tard. Excusez-moi, vous n'êtes... Excusez-moi, monsieur, vous n'avez pas la permission d'être là à une heure pareille.
Que me voulez-vous ?
Les morceaux que vous jouiez, monsieur. Ça a été un privilège d'avoir pu entendre cette douce mélodie.
Il était destiné à quelqu'un à qui je tenais.
Oh, excusez-moi de mon indiscrétion. Mais vous savez, c'est dangereux d'être à cette heure-ci ici, monsieur.
Pourquoi donc dites-vous cela ?
Ne savez-vous pas ce que l'on raconte ? C'est l'histoire du fantôme de l'opéra.
L'histoire du fantôme de l'opéra Garnier commence en 1873, lorsqu'un violent incendie éclate dans le bâtiment. Ernest, un jeune pianiste prometteur, est grièvement brûlé au visage, totalement défiguré. Il se serait réfugié dans les souterrains du palais Garnier, alors en construction, avant de disparaître sans laisser de traces. La légende raconte qu'il y aurait achevé la marche musicale qu'il était en train de composer pour sa fiancée, morte dans l'incendie, avec laquelle il devait se marier quelques jours plus tard. Fou de chagrin, le jeune homme aurait hanté les lieux de ses cris déchirants.
Et vous y croyez, vous ?
Non, je crois pas aux histoires d'enfants.
Nous allons maintenant écouter l'interview d'une des guides de l'opéra.
C'est un de mes endroits préférés sur Terre. Il est magnifique, il est merveilleux, donc oui, heureusement qu'il a créé cet opéra. C'était un peu fou, mais heureusement qu'il est là.
Qu'est-ce que vous pensez de l'opéra Garnier ?
Eh ben moi, je l'adore. Voilà.
pour même vous dire, je suis revenue travailler parce que ça me manquait. J'avais fait une petite interruption et je suis revenue travailler là parce que ça me manquait de voir le visage des gens quand ils arrivent dans le grand foyer.
Ça fait combien de temps que vous exercez ce métier ?
À peu près 20 ans et quelques. Je suis à l'Opéra depuis 2007. Ça va faire 19 ans bientôt.
C'est quoi votre moment ou endroit préféré à l'Opéra Garnier ?
Alors c'est rigolo de voir quand les gens arrivent depuis, en début de visite, quand ils arrivent tout en bas au pied de l'escalier et que déjà ils ouvrent des yeux incroyables et que moi je sais qu'il y a encore plein de choses encore plus incroyables derrière, que déjà là ils n'en croient pas leurs yeux. Et puis alors quand ils arrivent dans le grand foyer, là c'est assez exceptionnel puisque ils ne s'attendent pas à voir un truc aussi fou.
Nous remercions Madame Chambert, notre documentaliste, Madame Garé, notre professeure de français, et Sarah de Radio Saint-Ferriol. Merci à vous de nous avoir écoutés.
Eden, Inata, Jikikel, les élèves 4e 5 du collège Armorin à Cré. Nous sommes partis à Paris en mars 2026 et nous avons réalisé un podcast sur la maison Victor Hugo que nous allons vous présenter.
L'endroit où se situe la maison est très beau sur la place des Vosges, mais à l'époque de Victor Hugo, la place s'appelait la place royale. Les meubles que nous voyons aujourd'hui sont bien ceux de Victor Hugo.
Mon endroit préféré est la chambre de Victor Hugo. À l'intérieur, il y a le lit où il est mort. Victor Hugo est mort le 22 mai en 1885, avenue Dello, ou plutôt avenue Victor Hugo, car c'est le seul auteur qui a eu l'honneur de vivre les dernières années de sa vie dans l'avenue qui porte son nom. Les gens lui écrivaient en mettant comme adresse Monsieur Victor Hugo à son avenue à Paris.
L'architecture est très jolie, c'est une architecture romantique. Ma pièce préférée est le grand salon, car les meubles sont très beaux et les couleurs très jolies. On l'appelle aussi le salon rouge, car tous les murs sont rouges.
Ma pièce préférée est le salon chinois. Les décors viennent de la maison de Juliette Drouet à Guernesey. C'est Victor Hugo lui-même qui a conçu et créé les meubles et les décors. Il s'est même amusé à cacher les initiales de Juliette et les siennes dans les motifs sur les murs. C'est très drôle de les chercher quand nous avons visité la maison. Les décors sont très bien réalisés dans les 7 pièces de la maison. Les couleurs sont très variées.
Et maintenant, on va vous présenter les personnes que nous avons interviewées dans la maison de Victor Hugo à Paris.
Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler ici ?
C'est un endroit que je trouve serein. On se sent bien. Pour moi, il y a de bonnes ondes. Le quartier est calme. L'appartement est très bien constitué. On se sent bien ici.
Pourquoi vous êtes venu ici ?
Bonjour, parce que j'aime beaucoup l'œuvre de Victor Hugo. C'est un écrivain que j'apprécie beaucoup. Je sais qu'il avait fait des sculptures, enfin ou des dessins plutôt, et donc j'étais curieux de venir ici, dans ce lieu, pour voir où est-ce qu'il habitait, quoi. Voilà.
Êtes-vous passionné par Victor Hugo ? Si oui, pourquoi ?
J'aime beaucoup sa poésie principalement, mais après ses œuvres littéraires, j'aime beaucoup. Oui, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, quoi.
Et quel est votre roman préféré et pourquoi ?
Notre-Dame de Paris, finalement, avec l'histoire avec Quasimodo, Esmeralda, tout ça. Ouais, je crois que c'est le livre que je préfère de Victor Hugo.
Ok, bah, merci beaucoup. On remercie Madame Chambert, la documentaliste, Madame Garin, la professeure de français, et Sarah qui travaille à Radio Saint-Ferréol. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés.
Podcast littéraire.
Lettre de Madame de Sévigné à Monsieur de Rabutin.
Nous sommes Emma, Naël, Mathéo et Liam, élèves de 4e du collège d'Armorin, à Cré. Nous sommes partis en voyage scolaire à Paris en mars 2026 et nous faisons un podcast sur Madame de Sévigné et le musée Carnavalet. Nous vous proposons d'écouter un dialogue que nous avons imaginé sur les lettres de Madame de Sévigné et son ami Monsieur de Rabutin.
Ma chère et tendre amie, j'espère que vous allez bien. En Côte d'Or, le temps ne nous est pas favorable. J'en suis tombée malade dans mon château de Buissy-Rabutin. Je commence à attendre vos lettres, notamment celles qui apprennent ce qui se passe à la cour du roi Louis XIV. Je vous suis reconnaissant de m'écrire si souvent. Je ne vois que maintes fois toutes mes filles. Ma femme reste la plupart du temps avec son groupe de commères. Elle dort la plupart du temps dans la chambre d'amis. On ne s'est point parlé depuis 2 semaines. J'attends avec impatience votre prochaine lettre.
Mon cher ami, je vous remercie de vos lettres. Je suis bien peinée d'apprendre vos soucis familiaux et je suis désolée d'apprendre aussi que vous avez été malade. J'espère que vous vous rétablirez bientôt. Moi aussi, ma situation familiale est difficile car ma fille me manque terriblement. Vous savez qu'elle a rejoint son mari à Grignan et la Drôme est si loin de Paris. À ce malheur s'ajoute aussi le froid d'hiver qui glace nos rues parisiennes déjà froides. J'espère que vous viendrez bientôt me voir dans mon hôtel Carnavalier ou la Carnavalette comme j'aime la surnommer. À la cour du roi, c'est assez agité, les commérages vont bon train. Je vous tiendrai au courant des rumeurs sur la prochaine maîtresse de notre bon roi. Je vous écris à présent du jardin du château, où le calme contraste avec l'agitation de la cour. Les conversations y sont tout aussi animées, mais plus sincères, et j'y trouve un certain repos. Hier encore, une promenade au crépuscule m'a rappelé combien les moments simples peuvent être précieux. Je pense souvent à vous et aux conseils avisés que vous m'avez donnés. Ils me guident dans un monde parfois trompeur. J'espère vous voir bientôt. Je vous écrirai prochainement.
Nous avons interrogé des visiteurs du musée Carnavalier.
Que savez-vous de Madame de Sévigné ?
Que c'est une noble qui avait une fille et qui a beaucoup écrit à sa fille. Et elle lui a dit, alors pour une féministe, c'est très important, hein, parce qu'elle disait à sa fille qu'il ne fallait pas avoir trop d'enfants, etc., etc. Alors que sa fille a eu beaucoup d'enfants. C'est toute cette correspondance avec sa fille. Elle-même avait été mariée très jeune, comme toutes les femmes de sa génération. Et elle s'est débrouillée pour n'avoir qu'un seul enfant, ce qui était rare à l'époque, hein, alors que son mari a quand même vécu un certain temps.
Et vous, qu'est-ce que vous savez de Madame de Sévigné et du musée Carnavalier?
C'est une écrivaine connue pour ses lettres à sa fille, qui habitait à Grignan, si je me rappelle bien. Oui. Qu'elle a loué ça pendant une vingtaine d'années. Et puis après, elle est partie dans un autre château, quelque part.
Alors, du coup, à la fin de sa vie, elle était partie chez sa fille. Et c'est là-bas qu'elle est morte. Elle avait attrapé une maladie, et du coup, c'est là-bas qu'elle a terminé.
Nous remercions Madame Chambert, notre documentaliste, Madame Garé, notre professeure de français, et Sarah, qui travaille à Radio Sans Féréole. Merci de nous avoir écoutés.
Radio Fabrique.
Tout le monde peut faire de la radio sur Radio Sans Féréole.